plus ensemble. Et puis, nous aurons l'occasion, après cela, en ayant centré à nouveau nos cœurs sur la valeur du corps de Christ, sur cette beauté miraculeuse de l'Église que nous sommes. On partagera la scène après, mais j'ai à cœur de partager avec vous la parole de Dieu maintenant. Le PowerPoint s'affiche, merci beaucoup. Nous poursuivons cette nouvelle série de méditations que j'ai intitulée « Une église selon le cœur de Dieu ». Le but de cette série, c'est que nous puissions réellement les uns et les autres déjà construire en nous une bonne vision de l'église, voir l'église, la concevoir et la voir comme Jésus la voit, pour pouvoir ensuite l'aimer comme lui, il l'aime. Parce que si nous n'aimons pas l'Église comme Jésus l'aime, si nous n'avons pas la passion de l'Église comme Jésus est passionné de l'Église, nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde que lui. Et que nous puissions non pas aller à l'Église, c'est ce que nous avons vu, mais que nous puissions réellement, dans une bonne vision, une bonne conception, une compréhension commune, que nous puissions être l'Église que son cœur désire. Parce que l'Église, bien-aimée, ce n'est pas le lieu où nous allons. On le dit toutes les semaines. Tu vas à l'Église dimanche ? L'Église n'est pas le lieu où nous allons. L'Église, c'est ce que nous sommes, par sa grâce. L'Église, c'est ce que nous sommes. Ecclésia, en grec, appelée hors d'eux, concerne donc des personne. L'Église ne peut pas être un bâtiment, je résume rapidement parce qu'on avait commencé cette série de messages sur le temps des vacances, je vois beaucoup de frères et sœurs qui reviennent. L'Église ne peut pas être un édifice matériel. Les disciples ont besoin, certes, d'un bâtiment pour se réunir, mais l'Église n'est pas un édifice matériel, ce n'est pas un bâtiment. L'Épître aux Hébreux dit bien « sa maison, c'est nous ». Nous, qui c'est ? Ce sont les disciples de Jésus, des pécheurs appelés hors de ce monde de ténèbres et de péchés, qui sont mis à part pour constituer un corps, pour être la représentation visible ici-bas, l'expression du cœur de Dieu visible ici-bas, l'expression de son cœur, de son être, des principes de son royaume. L'Église, sa maison, c'est nous. Et quand j'ai réalisé que je suis l'Église, il y a beaucoup de choses qui doivent commencer à changer. Parce que du coup, étant l'Église, ça éveille en moi un privilège, bien sûr, mais ça éveille en moi un degré de responsabilité. Beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'endroits, pardonnez-moi, vont à l'église, mais en réalité consomment de l'église, consomment des réunions, mais nous ne consommons pas des réunions. Nous faisons les réunions et nous sommes l'église. Et nous sommes appelés à avoir un rayonnement. Quand je vais à l'église, quand je consomme de l'église, si c'est simplement ça, ma relation à l'église, oh! Le jour où c'est pas trop comme j'ai envie que ce soit, c'est très facile de sortir discrètement et puis terminer, au revoir. Je vais aller voir chez Auchan, parce que du coup, chez Carrefour, cette semaine, ça m'a pas trop plu. Donc, je vais aller voir chez Auchan s'il n'y a pas plus de promos et je vais aller voir s'il n'y a pas moyen que quelque chose me plaise un peu plus. Parce que là, c'était... Oui, mais... Oh ! Je suis, vous êtes, nous sommes, par la grâce de Dieu, nous sommes l'Église. Et l'Église, je ne veux pas la consommer. Et je vous montrerai plus tard que l'Église, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le montrerai, l'Église ne peut pas être autre chose, que ce que je suis. L'Église ne peut pas être autre chose que ce que nous sommes. Elle ne peut pas être autre chose. Il n'y aura jamais dans l'Église autre chose que ce que nous y avons apporté, chacun pour notre part. Nous avons considéré aussi la différence entre l'Église universelle et l'Église locale. On a vu que c'était la volonté de Dieu, l'Église locale, une nécessité, une volonté de Dieu, tout est sur le site internet. Et puis la dernière fois, on s'est attaché à ce miracle, parce que l'Église réellement, c'est pas exagéré de le dire, l'Église est réellement un miracle. De par son origine divine, origine, fondement, impact de l'Église, L'Église est un miracle. De par son origine, Jésus dit bien « Je bâtirai mon Église ». C'est son initiative. L'Église n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. L'Église n'est même pas l'invention des apôtres, ce n'est pas une tradition historique, ce n'est pas un groupement idéologique. L'Église trouve son cœur, elle trouve sa source, pardon, dans le cœur même de Jésus. Dieu, le Père, a toujours voulu un peuple qui le représente ici-bas. Dieu, le Père, a toujours voulu une épouse pour son Fils. Jésus, Dieu le Fils, a toujours voulu une épouse pour lui-même. Dieu, le Saint-Esprit, a toujours œuvré et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il entreprend sur cette terre, c'est pour l'épouse. Tout ce qui est fait, tout ce qui est donné, tout ce qui est qualifié, c'est encore et toujours pour l'épouse. Le but de Jésus, c'est l'épouse, 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 l'épouse. La passion de Jésus, c'est l'épouse. Et le prix payé à la croix me dit à quel point cette épouse, il la voulait. Ouais. À quel point il la voulait, à quel point il la chérit. Il s'est livré lui-même pour elle, il se l'est acquise par son propre sang. La passion de Jésus, c'est l'Église. Seigneur, mets dans mon cœur la vision de l'Église. Seigneur, donne-moi d'être passionné par ce CEX. Donne-moi d'être passionné par ceux qui te passionnent, toi. Parce que je veux être raccord avec toi, Seigneur. Je ne veux pas être en décalage. Et puis, on a vu que Jésus, s'il est l'origine de l'Église, est aussi, par voie de conséquence logique, le seul et unique fondement de l'Église. L'Église a comme fondement Jésus, la pierre angulaire. Aucun homme, aucun apôtre, aussi puissant soit-il, aucun ministère ne peut être le fondement d'une église. Nous, les apôtres, évangélistes, pasteurs, anciens, docteurs, les anciens, etc., nous sommes des outils de la grâce de Dieu au service de l'église. Nous bâtissons l'église avec Jésus. Nous bâtissons par Jésus, nous bâtissons sur Jésus, nous bâtissons pour Jésus et l'église restera toujours à Jésus. Et jamais, en aucune façon, bien-aimé, une église ne doit arriver à cultiver un lien de dépendance envers un ministère. Jamais, c'est une énorme erreur. Et quand on dit « Jésus, c'est le seul et unique fondement », tout le monde va dire « Mais bien sûr, mais c'est évident, pourquoi il dit ça le pasteur ?» Parce que le nombre de fois, bien-aimé, où inconsciemment, dans la pratique, des hommes se sont tellement installés dans les églises, tellement enracinés dans les églises, qu'ils ont fini par déteindre sur les églises, au point qu'on s'en rend même plus compte. Tu vas où à l'église, toi ? Eh bien, moi, je vais à l'église de monsieur un tel. Pardon ? Comment ? Non, non. Je vais dans le bâtiment 175 allée de la Fourmi rencontrer mes frères et sœurs parce que je suis l'église locale à Aubagne et je rencontre mes frères. Mais je ne vais pas dans l'église de monsieur un tel ou de monsieur un tel. Je suis l'église et nous nous rencontrons à tel endroit. Et les églises, malheureusement, sans s'en rendre compte combien ça peut arriver à droite, à gauche, finissent par dépendre d'hommes, de ministères, s'appuyer sur eux, parler comme eux et même finir par leur ressembler. Je vous garantis, si la semaine prochaine, il y en a un qui met un t-shirt noir avec une veste noire comme moi, ça va barder, c'est hors de question. Vous me laissez, c'est mon exclusivité, c'est mon truc à moi. Vous mettez ce que vous voulez, il est hors de question. On verra plus tard que l'unité n'est pas de l'uniformité, évidemment. Mais combien, trêve de plaisanterie, combien malheureusement, sans s'en rendre compte, les églises finissent par cultiver de liens de dépendance auprès de pasteurs trop charismatiques qui finissent par déteindre et marquer les églises. Une église ne doit jamais, vous m'entendez ? Vous entendez ce que je vous dis ? Marquez-le en rouge et mettez-le au-dessus de votre lit. Une église ne doit jamais, en aucune façon que ce soit, s'attacher à un ministère. Jamais. Vous êtes l'Église. Vous avez une forme de souveraineté et d'autorité dont on parlera plus tard. Et jamais, jamais, au grand jamais, vous ne devez dépendre d'un homme, quel qu'il soit. Et quand, de toute façon, bien aimé, on regarde le modèle apostolique, Dans le modèle apostolique, vous avez les églises, de par la volonté de Dieu, les apôtres, ce n'était pas leur initiative, c'était l'initiative de Jésus. Les apôtres ont constitué, sur ordre de Jésus, des églises locales. Il y a les églises locales. Dans ces églises locales, ils instituent, ils mettent en place des anciens pour être bienveillants, pour paître le troupeau, pour en prendre soin. Et ensuite, en fonction des besoins des églises locales, parce qu'il y a des besoins divers et variés à différents moments de l'histoire des églises, à ce moment-là, les ministères passaient, l'église restait, les ministères passaient sur une église, apportaient le mieux qu'ils pouvaient, ce qu'ils avaient apporté pour enrichir l'église en fonction de ses besoins à ce moment-là, et quand leur mission était achevée, ils ne s'enracinaient pas, les gars. Ils bougeaient et ils allaient voir ailleurs, ils allaient apporter du mieux qu'ils pouvaient, autre chose ailleurs, mais un autre ministère qui avait reçu autre chose. Parce que je ne connais aucun ministère qui a tout reçu, ce n'est pas possible. Dieu a fait en sorte qu'un autre ministère venait, enrichissait les églises. Et c'est comme ça qu'on a des églises qui étaient là, qui étaient en place, qui avaient un cœur, une puissance, un rayonnement. Et puis selon leur faiblesse, selon leurs besoins, eh bien, des ministères venaient et leur apportaient ce dont elles avaient besoin. Acte 19, un jour, Paul est à Éphèse. Ben, ça tombe bien que ce soit Paul, parce que les Éphésiens leur disent « Ah ben, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Ah bon, vous ne savez pas qu'il y a un Saint-Esprit? Ben, ça tombe bien que ce soit Paul, parce que plus pentecôtiste que Paul, ce n'est pas possible. Il dit, mais moi, je vais vous expliquer ce que c'est que le Saint-Esprit. Et puis, il emmène les Éphésiens, effectivement, dans une autre dimension spirituelle. Et chaque ministère... Mais Paul n'est pas resté 10 ans à Éphèse, ce n'est pas biblique. Alors, tout ça pour vous dire que les ministères passent, ils apportent ce qu'ils ont reçu, un autre vient, ainsi de suite. Mais l'Église reste, l'Église demeure la propriété exclusive de Jésus et aucun homme n'a le droit, excusez-moi, de s'y installer ou de s'y enraciner. Ça va ? Amen. Ce matin, on ouvre ensemble, si vous voulez bien, 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, parce qu'on a terminé la semaine dernière en parlant de l'impact de l'Église sur la terre mais aussi dans le ciel. Et de cette sagesse infiniment variée de Dieu, qui va justement dans la voie logique nous amener ce matin à parler de la composition de l'Église. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de l'unité de l'Église, ça ce sera pour plus tard. On va parler de la composition miraculeuse de l'Église. Parce que si l'Église est un miracle de par son origine, elle est aussi un miracle de par sa composition. Et un miracle aussi de par son unité, on le verra plus tard. 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 et 10. Vous, au contraire, en opposition avec ceux qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, vous, au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Et vous pouvez venir avec moi dans l'Apocalypse, la référence est sous vos yeux. Apocalypse chapitre 5. Là aussi, les versets 9 et 10, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, est témoin en vision d'une scène absolument glorieuse qui se joue dans le ciel. Il chantait, ses rachetés, les disciples de Jésus, les rachetés, les sauvés. Il chantait un cantique nouveau disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, dans le contexte évidemment c'est Jésus, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. On peut descendre un petit peu dans la lecture, aller au chapitre 7, si vous voulez bien. Chapitre 7, on prend le verset 9. Après cela, dit Jean, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Tout ce que l'Esprit de Dieu fait est fait pour l'épouse de Jésus. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend est fait pour cette grande vision. C'est le but suprême, c'est le pourquoi de la venue et du sacrifice sanglant de Jésus sur la croix. Cette grande foule, c'est la vision, c'est la passion de Jésus. Ces gens qui sont revêtus de robes blanches, c'est-à-dire robes blanches, ce sera le symbole de leur justification, le symbole de leur pureté retrouvée par la repentance et la foi grâce à Jésus. Tous ces gens qui se tiennent devant le trône et qui glorifient Dieu pour son salut, ces pécheurs sauvés par grâce, tous ces gens qui sont devenus les citoyens du ciel, c'est l'Église. Amen. Voilà la destinée glorieuse de l'Église. Cette multitude de rachetés, c'est l'Église. Et ce texte, comme les autres, comme tant d'autres, précise la composition miraculeuse de l'Église, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ce qui, sans manquer de respect au Seigneur, mais pour reprendre les propos de l'apôtre Paul, est réellement une folie de Dieu. C'est réellement une folie. Déjà que l'Église soit, ce soit des personnes et non pas un bâtiment, c'est déjà à contre-courant de la pensée humaine, de la façon logique de raisonner dans la pensée humaine. Que ces pierres, qui sont des pierres vivantes, forment un temple spirituel, que ces différents membres constituent l'épouse visible du Dieu invisible, c'est déjà très insolite, c'est très original. Le minimum qu'on puisse dire, c'est que c'est original. Mais moi, je n'ai pas peur de dire que c'est une folie, mais une folie selon Dieu, vous avez compris. Mais qu'en plus, l'Église soit des personnes qui n'ont strictement rien à faire ensemble, c'est d'autant plus miraculeux. Des gens qui n'ont rien en commun. Des gens que tout, naturellement, humainement, des gens que tout sépare. Parce qu'ils viennent d'horizons différents. Parce qu'ils ont des arrière-plans religieux différents. Parce qu'ils ont une culture différente. Des origines ethniques différentes. Une culture, des cultures différentes. Une couleur de peau. Un niveau d'éducation. Des conditions sociales différentes. Tout est des gens qui ne se retrouveraient pas naturellement. Parce qu'humainement parlant, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas d'atome crochu. Toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. C'est-à-dire que ce sont des gens, en réalité, pardon, qui ne sont absolument pas faits pour s'entendre. Ils n'ont rien en commun, humainement parlant. On n'est pas fait pour s'entendre. On n'est pas fait pour s'aimer. On n'est pas fait pour se comprendre. Humainement parlant, c'est une pure folie. Rassembler ces gens que rien n'assemble, rassembler des gens que tout sépare, rassembler des gens qui soient aussi différents, c'est un pur miracle. La composition de l'Église est miraculeuse. Son origine est miraculeuse, sa composition est miraculeuse, et on verra que son unité est miraculeuse. On va voir la base ce matin, le fondement de l'unité. Parce que moi, j'aime bien savoir pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi il y a des endroits où ça marche très bien, il y a des endroits où ça ne marche vraiment pas bien. Tous ces gens que tout sépare, ces gens que rien n'assemble, c'est possible qu'ils soient un, si et seulement si, je reprends la formule mathématique, si et seulement si, ce que je vais vous dire, attention, si et seulement si le spirituel transcende, c'est-à-dire qu'il est au-dessus, le reste est effacé, si le spirituel transcende le charnel, si le divin en toi, en moi, transcende l'humain, à ce moment-là, ça reste tout à fait possible. Parce que nous avons, vous et moi, vous les uns avec les autres, nous avons en Jésus, nous avons grâce à Jésus, nous avons par l'intermédiaire de Jésus, des points communs qui sont bien supérieurs à tout ce qui est humain. Seulement, il faut que nos yeux se portent en permanence sur ces points et que nous ayons la révélation dans nos cœurs. Quels sont ces points? Dans la pratique, tout le monde va dire « Ben, c'est évident, on le sait bien qu'on est tous pécheurs, tous sauvés par grâce. » Oui, oui, on est tous pécheurs et on a tous eu besoin de la même grâce. Et aujourd'hui, puisque tout est grâce, j'ai encore besoin de la même grâce. Des fois, on comprend que c'est vrai qu'avec elle, heureusement que Dieu est un Dieu de grâce. Hein. Avec lui, heureusement que le Seigneur est patient. Hein, mon Dieu. Mon frère, ma sœur, n'oublie pas la patience de Dieu sur ta vie. N'oublie pas la grâce qu'il déploie quotidiennement sur toi. Et qu'il n'a pas fallu plus de grâce de Dieu pour ton frère ou ta sœur que pour toi. Et si aujourd'hui, comme dit Paul aux Galates, si aujourd'hui tu es debout, n'oublie pas que c'est par sa grâce. Et fais bien attention de ne pas tomber. Parce que le message de la grâce, quand je suis à la ramasse, pardonnez-moi l'expression, le message de la grâce me prend, me booste, se révèle à moi, m'enthousiasme et me remonte. Mais quand dans mon être intérieur, mon beau-père me disait toujours, « Steph, fais gaffe, dans le cœur de chaque pasteur et dans le cœur de chaque chrétien, il y a un petit pharisien qui sommeille quelque part. Et celui-là, il ne lui faut pas grand-chose pour... Et à ce moment-là, le message de la grâce qui m'avait autrefois remonté, le message de la grâce me dit, eh oh, n'oublie pas que si t'es là, c'est ma grâce. N'oublie pas que si t'es debout, c'est ma grâce. Je suis au bénéfice de la même grâce que mes frères et sœurs. Nous avons le même médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus. Si ça, ce n'est pas un point commun suffisant, je ne sais pas ce qu'il faut. Nous avons été lavés par le même sang. Parce qu'il n'y avait pas de plus gros pécheur entre vous et moi. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Nous avons été lavés par le même sang. Il n'a pas fallu plus de sang de Jésus pour purifier un brigand, une prostituée, un voleur, je ne sais quoi, je ne sais qui, que pour purifier un bon petit gosse de pasteur comme moi. Nous avons été lavés par le même sang. Et la personne qui est à côté de toi, il n'a pas fallu plus de sang de Jésus pour la purifier, elle, que toi. Vous avez été lavé, purifié par le même sang. Et quand on a compris la valeur du sang, c'est-à-dire du sacrifice de Jésus, je réalise la valeur de la personne qui est à côté de moi. Je réalise la valeur, pardonnez-moi, de la personne qui est dans l'autre rangée. Des fois, c'est juste parce qu'il faut bien qu'on se positionne quelque part, puis des fois, ça nous arrange que certains soient dans l'autre rangée. Nous avons... Comme dit Paul, je vous ai mis les références à chaque fois, nous avons, comme dit Paul, alors vous avez vu, c'est toujours même, hein, même grâce, même médiateur, même sang. Comme dit Paul aux Éphésiens, Éphésiens 4, 5, le même Seigneur, nous avons la même foi, nous avons le même baptême, nous avons le même Dieu et Père, Nous avons la même espérance, Éphésiens 4, 6. Nous avons été baptisés et abreuvés d'un seul et même esprit. Il n'y avait pas un esprit différent pour vous que pour moi. Il n'y a pas une mesure de Saint-Esprit différente pour vous que pour moi. Dieu veut accorder à chacun la même chose. Dieu ne fait exception de personne, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de distinction, de différence entre les personnes. Il ne fait pas non plus de différence entre ses enfants, une fois qu'ils sont devenus ses enfants, baptisés, abreuvés d'un seul et même esprit. Nous avons, je le souhaite, les yeux fixés sur le même ciel, d'où nous attendons le même Seigneur. Philippiens 3. Et puis, s'il est vrai que nous avons le même Seigneur, j'aime aussi à dire que nous avons le même diable. On a le même ennemi. Et comme malheureusement, bien aimé, dans les églises, nous n'avons pas forcément les yeux fixés sur le même ciel, mais les yeux fixés sur tellement de choses qui devraient être secondaires, tertiaires, quaternaires. Et que malheureusement, nous n'avons pas les yeux fixés sur... Malheureusement, spirituellement parlant, nous n'identifions pas bien le même ennemi. Nous avons le même ennemi. Et par conséquent, combien de fois nous avons le chic pour lui faire son travail. Il est lié, il est vaincu, et nous, on lui fait son job. La personne qui est à côté de toi, elle a aussi le même ennemi, elle a les mêmes luttes, les mêmes pressions, elle a les mêmes pensées mensongères. Le diable sait, il rôde, il sait nous souffler ses mensonges. La personne qui est à côté de toi, elle a les mêmes combats, elle est soumise aux mêmes combats spirituels, nous passons tous plus ou moins par les mêmes épreuves. Qui dit épreuve dit tentation, c'est la même racine en grec. Les mêmes épreuves, les mêmes tentations. On passe tous ou plus ou moins par les mêmes échecs. On peut connaître les mêmes moments de découragement, les mêmes combats. Tous, on a eu envie de jeter l'éponge. Et si quelqu'un me dit « Ah non, moi ça ne m'est jamais arrivé !» Ah ben t'inquiète pas. Ah ben tu vas voir. Et quand on a identifié notre ennemi spirituel, t'as pas l'impression que ton frère, ta sœur, ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants, ils ont suffisamment avec cet ennemi commun, sans que j'en rajoute? Ça va, vous êtes contents d'être venus, hein? Frères et sœurs, c'est ça la clé d'une église puissante. C'est quand l'église a identifié son ennemi commun et qu'elle a fait cesser tout le reste. Et puis, cet ennemi qui rôde, cet ennemi qui cherche à nous nuire, Luc 22, Jésus dit bien à Pierre, alors qu'il va lui annoncer, et derrière Pierre, il y a un type de la nature charnelle dans sa faiblesse, son incapacité. À la place de Pierre, ça aurait été Stéphane, Joris, René, c'était pareil. Le Seigneur lui annonce qu'il n'est pas à l'auteur, il n'y arrivera pas à Pierre. Tu te leurres, tu t'illusionnes, tu es plein de bonne volonté, mais je te garantis que tu vas me renier, je le sais, ça ne marchera pas. Mais quand le Seigneur annonce ceci à Pierre, parce que tous ont renié Jésus, il n'y a pas que Pierre, hein, c'est écrit, tous l'ont renié, tous l'ont abandonné. Jésus dit bien à Pierre, il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Pas il t'a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour vous passer au crible. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Amen. Mais en réalité, on s'aperçoit que ça concernait l'ensemble des disciples qui étaient sous le feu ennemi à ce moment-là. Le diable voulait se servir d'un moment d'échec, d'un moment de découragement pour... Et dans une certaine mesure, ça avait marché parce que Pierre et les autres, ils sont partis s'enfermer dans la chambre haute, ils ont eu peur, ils sont retournés à leur entreprise de pêche. Dans une certaine mesure, cet événement qui leur avait échappé, qui les avait tous mis à la ramasse, quelque part avait servi, l'ennemi avait cherché à prendre l'avantage sur cette situation. Et quand l'ennemi cherche à prendre avantage sur les situations des uns et des autres, ben mon frère, ma sœur n'a pas besoin que moi, si tu priais un peu plus, si tu avais la foi comme moi, tu es sûr que tu n'as pas péché ? Il y a tellement, frères et sœurs, de petites pensées, de petits mots qui peuvent, d'un point de vue, ça a l'air très anodin, mais en même temps, ça fait l'œuvre de l'ennemi, et puis ça... Mon frère, ma sœur, a le même ennemi que moi. Et parce qu'il est mon corps, parce que je suis son corps, quand il ne va pas bien, alors je ne peux pas m'imposer, je ne m'impose à personne, mais quand il ne va pas bien, je suis là. Et je veux le supporter, comme dit Paul, porter par le dessous. Je veux le prendre et le porter. Parce qu'il a assez d'un ennemi. Il n'a pas besoin que j'en rajoute. Épreuve, tentation, échec, combat, pensée négative, pensée d'abandon, découragement. Et puis... Vous savez aussi ce qu'on a comme point commun, celui-là je l'aime bien aussi, c'est qu'on est tous en progrès. On est tous en reconstruction. Tous imparfaits, tous pécheurs sauvés, tous besoin de progrès, comme dit Paul, 2 Corinthiens 3:18, de progrès en progrès, de changement en changement, besoin de sanctification, besoin de ressembler toujours davantage au caractère de Jésus. Tous imparfaits, tous on a des problèmes de caractère. Il y en a qui font. On est tous en chemin vers la ressemblance du Seigneur. Et tu as besoin de sanctification, tu as besoin de progresser. Autant que ton frère et tes sœurs, tes frères et sœurs ont besoin de progresser. S'il n'y a pas cette patience dans l'Église, toi qui es disciple de Jésus, apporte de la patience. S'il n'y a pas assez d'amour dans l'Église, avec le plein d'amour que tu as fait dans ta communion et ton intimité personnelle avec le Seigneur cette semaine, apporte l'amour qui manque. Je t'en prie, il n'y a aucun problème. Si ça manque de louanges dans l'Église, mon frère, ma sœur, je t'en prie, sens-toi libre, enrichis-nous de ta louange. C'est dur, hein, pardon, hein, mais il y a des moments où il faut prendre les électrochocs et il faut les charger à 300 joules. Nous avons tous besoin de progresser. Parce que, bien aimé, il faut le comprendre, l'Église ne pourra jamais être autre chose que ce que nous sommes. Il n'y aura pas dans l'Église autre chose que ce que j'y aurais apporté. C'est ce qui fait mon privilège d'être membre du corps de Christ, mais c'est ce qui constitue aussi une énorme responsabilité. Parce que l'Église ne pourra pas être autre chose et ne vivra pas autre chose que ce que moi, je vais pouvoir y apporter. Alors, c'est sur la base de ces points communs, lorsque, effectivement, nous sommes tous, pardonnez-moi de le dire ainsi, hein, quand nous sommes tous raccords sur ces points et que le reste, nous l'avons laissé de côté, quand ça devient notre fil rouge, notre ligne de conduite, c'est sur la base de ces points communs, ces points spirituels, qui sont en réalité les garants de la bonne santé spirituelle et morale de l'Église et donc de son unité, puis on verra ensuite de sa force, de sa puissance, de son rayonnement, de son expansion. C'est sur la base de ces points spirituels, quand nous avons compris cela et que nous avions tous besoin d'avancer vers le même modèle qu'est Jésus, qu'en réalité, nous tendons, comme dit Paul aux Colossiens, nous tendons à ce que Christ soit tout et en tous. Une église dans laquelle Christ est tout et en tous. Comment voulez-vous que ça ne marche pas ? Christ est parfait. Christ avec Christ, il ne peut pas se chicaner. Jésus et le Saint-Esprit ne se disputent pas, eux. Ils ont bien d'autres combats plus importants à mener. Christ avec Christ, ça ne peut que marcher. Quand nous tendons et que nous progressons les uns et les autres à ce que Christ soit tout et en tous, que Christ soit tout en moi, eh bien forcément, nous progressons, certainement, mais un peu inconsciemment, mais nous progressons vers l'unité de l'Église. On aimerait bien que Christ soit tout dans le cœur de notre femme. Était convaincu que si Christ était tout dans le cœur de ton mari, ça réglerait beaucoup de choses. En partie seulement. Il faut que Christ soit tout et en tous. Mais moi, je ne peux pas construire Christ en toi. C'est ta responsabilité de membre de construire avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans la parole, dans ton intimité, c'est ta responsabilité de construire Christ en toi et ensuite de l'apporter à ce corps qu'est l'Église. Et je ne peux pas le construire en vous, vous ne pouvez pas le construire en moi, ce n'est pas possible, on aimerait que... Mais non, c'est chacun pour sa part, chacun est responsable de ce qu'il construit. Paul aux Colossiens dit bien, il n'y a ici, je ne vous le fais pas lire, Colossiens 3:11, je le lis pour vous, ça c'est la fin du verset, mais Paul dit bien, il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, pour ceux qui connaissent le texte, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, l'apôtre Paul ? C'est très simple, il est en train de dire, il n'y a ici ni grec, ni juif. Il est en train de dire, je reviens à un seul peuple, la nationalité des gens de toute nation, grec ou juif, l'arrière-plan national, ni circoncis ni incirconcis. Ça signifie l'arrière-plan religieux, c'est fini, c'est terminé, c'est derrière. Je ne dois plus être influencé par le paganisme, par la religion que j'ai pu connaître, par mon athéisme, par peu importe comment j'étais avant. Tout ça doit disparaître et je ne dois plus être influencé par cela. Pas d'arrière-plan national. L'arrière-plan religieux, lui aussi, disparaît. Lorsqu'il dit « ni barbare, ni scythe », il faut comprendre que les barbares, c'était un terme que les Grecs avaient inventé. On dit « ah, c'est des barbares », c'était pour donner des gens qui n'avaient pas beaucoup d'instruction. Et puis « scythe », c'était ceux qui étaient considérés, parce que c'était un peuple de l'Antiquité, qui était, on les considérait comme des sauvages, c'était les pires des pires. Ni barbares, ni scythe. Les scythes étaient les pires de tous les barbares, de tous les incultes, voilà, de tous les sauvages. Et l'apôtre Paul est en train de dire « mais peu importe le niveau d'instruction, ni esclave ni libre, peu importe la condition sociale, que tu sois chef d'entreprise ou que tu fasses du ménage, que tu diriges une grande société qui rayonne dans le monde ou que peut-être tu cherches un boulot en ce moment, tout ça, c'est... ça ne doit pas influencer, ça ne doit pas amener de divergence, ça ne doit pas influencer mes relations, mon caractère, ma vision des gens. Je ne regarde pas à l'apparence, je ne regarde pas à l'humain, je ne regarde pas au terrestre, je regarde au divin, je ne regarde pas au charnel, je regarde au spirituel. Et en réalité, toutes ces barrières sont nation, religion, arrière-plan religieux, niveau d'instruction, conditions sociales, toutes ces barrières seront renversées pour que Christ soit ma vie, pour que je vive son caractère, ses sentiments, et que tout ça aille transcender. Le reste, je ne le vois plus. Ce que je vois, c'est Christ. Ce que je cherche à être, à amener dans mon Église, c'est Christ. Amen. Et c'est là que, dans cette perspective, l'apôtre Paul dit bien, Philippiens 2, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments de Jésus, avec les sentiments de Jésus, ça ne peut que marcher. Amen. C'est comme ça que toutes ces barrières sont renversées. Et quand ces barrières ne sont pas renversées, bien-aimés, quand les cultures, les arrière-plans divers et variés, quand les cultures ont pris le dessus, mais c'est comme ça qu'on est arrivé. Alors là, je vais peut-être pas me faire des amis, mais enfin bon, tant pis. C'est comme ça que, à différents endroits, certaines églises de France et de Navarre, on a des églises de blancs. Puis moi, j'ai vu des églises d'Africains. Puis on a des églises de gitans. Puis on a des églises de coréens. Et puis on a des églises, oui, enfin quand même ici on est en Alsace, donc on a l'église alsacienne. Puis, non mais attendez, je ne suis pas breton chrétien, je ne suis pas provençal chrétien. C'est très sérieux ce que je vous dis. Je ne suis pas africain chrétien, je ne suis pas gitan chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. J'ai peut-être une origine gitane, j'ai peut-être une origine africaine. J'ai peut-être. Je suis chrétien. Chrétien, c'est pas quelque chose en plus de ma vie. Être chrétien, c'est ma vie. Être chrétien, c'est ma vie. C'est ce que je suis, c'est pas un plus dans ma vie, c'est ce que je suis. Et je suis appelé à être chrétien, c'est-à-dire disciple de Christ avec la mentalité de Christ, l'état d'esprit, avec les sentiments de Christ, le cœur de Christ. Combien de fois j'ai vu et j'ai entendu « Ah oui, mais vous savez, frère, le tous ensemble, oh, l'unité, tous les peuples, machin, vous savez, ah, ce sera pour le ciel, mais en attendant, vous comprenez, non, on est trop différents, la culture africaine, non mais les cultures, vous les laissez de côté. N'imposez pas votre culture les uns aux autres. Ouais, mais ça, ce sera pour le ciel, parce que là, vous savez, on est trop différents. Quoi ? Non, je ne suis pas d'accord. On n'est pas trop différents. Regardez ça et dites-moi qu'on est différents. Nous ne sommes pas trop différents dans les églises. Le problème dans les églises, c'est qu'on est trop charnel. On n'est pas trop différents. On est trop charnel. Et c'est de là que viennent effectivement les difficultés, les problèmes. Parce que nous... Ah oui, non mes frères, vous comprenez, nous ici c'est comme ça... J'ai connu, hein, des braves frères. Ah mais nous c'est une église de gitans, c'est comme ça. Je dis, frère, excuse-moi, c'est pas que je t'aime pas. Vous, tu m'entends bien, frère ? Vous n'êtes pas une maison de prière pour tous les peuples. Pardon. Vous n'êtes plus une maison de prière pour tous les peuples. La pensée de Dieu, elle est claire. Il veut des hommes de toute nation, de toute couleur de peau, de toute origine ethnique. Vous savez que dans des pays, ils ont certes la même nationalité, mais l'origine ethnique... Et vous avez des pays en Afrique ou ailleurs où il y a des églises de telle catégorie ethnique et de telle catégorie ethnique. C'est pas l'église. L'église sur la terre est appelée à être la représentation vivante de ce qu'elle sera au ciel. La représentation vivante de ce qu'elle sera au ciel, du cœur de Dieu. Christ, lorsqu'il n'est pas tout et en tous, ça ne peut pas fonctionner. L'Église ne peut pas être la représentation du cœur de Dieu ici-bas. Donc, on le verra plus tard, elle est limitée dans sa force, elle est limitée dans son impact, elle est limitée dans sa bénédiction, dans son rayonnement. Elle a des gros problèmes de stérilité, elle n'arrive pas à enfanter des âmes. Pourquoi ? On n'arrive pas à être quantitatif. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu de vue la qualité. Et Dieu veut améliorer le qualitatif avant de donner du quantitatif. Imaginez dans une église où il y a des critiques, des paroles, des tensions. On se regarde, machin, il y a ci, il y a ça, on n'est pas d'accord, lui il est comme ci, elle est comme ça, machin, ça. Il n'y a pas de réelle unité. Et imaginez que cette église qui fait 100 membres, les gens ne changent pas, mais que les gens se reproduisent. Et que demain, cette église avec... demain, elle fait 200 membres. 400 membres. 800 membres. 1000 membres. 1500 membres. Ah, je ne sais pas lequel pasteur veut être à la tête d'une église. Ou... Parce que tout ce qui ne va pas va être exacerbé. Tout va être multiplié. Ça devient ingérable. Donc, pourquoi les églises en France, dans beaucoup d'endroits, n'arrivent pas dans le quantitatif, ne connaissent pas de véritable multiplication, parce qu'il n'y a pas de qualité spirituelle au sens où nous l'avons définie ici. Et comme l'unité n'est pas présente, sans unité, le corps ne peut pas se multiplier. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas, parce que le corps a besoin de qualité. Et quand l'Église redevient par révélation l'Église que le cœur de Jésus désire, quand elle redevient l'Église dans son sens qualitatif, ben croyez-moi, après je vous garantis, les âmes, elles vont arriver toutes seules. La multiplication, elle se fait toute seule. Actes chapitre 9, l'Église était en paix dans la Judée, la Samarie, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça a toujours fonctionné comme ça. Est-ce que vous voulez que votre Église, elle grandisse ? Vous voulez voir des âmes ? Est-ce que vous voulez vous voulez voir des baptêmes de l'Esprit ? Vous voulez voir des guérisons au milieu de vous ? Vous voulez voir l'œuvre et la puissance de Dieu dans vos vies et dans celles de ceux qu'il emmènera par dizaines et par centaines ? Il faut absolument ne pas se tromper de combat. Il faut être l'Église que son cœur désire. Être réellement l'Église que son cœur désire. Désir. Et ta responsabilité, mon bien-aimé, c'est de travailler à ce que Christ soit tout en toi, et par sa parole et par son esprit. Ben oui, c'est bien possible, tout à fait possible. Tu vas progresser. Amen. On aime les miracles, on aime les guérisons, on aime. Quand vous regardez les livres des Actes des apôtres, après la Pentecôte, on voit les 3000, et puis on voit qu'en même temps, le vent de persécution se déchaîne avec, puis on voit une vague de réveil de l'esprit, amen. Et puis, on lit dans les Actes des apôtres des récits extraordinaires, de délivrance, de miracles, des guérisons, des résurrections, des choses. Et tout de suite, acte 3, ça commence. Le boiteux qui est à la porte du temple, qu'on appelait la Belle, le boiteux qui est là, Pierre et Jean passent, Pierre regarde ce boiteux. Il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Et Pierre lui dit, tu sais, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. C'est un miracle ? Mais ce miracle-là, il ne m'intéresse pas, frères et sœurs. Ce n'est pas de ce miracle-là que vous avez besoin. Ce miracle-là ne convaincra pas vos familles. Ce miracle-là ne convaincra pas le monde. Ce miracle-là ne peut pas convaincre. Ce miracle-là ne fera rien du tout. Parce que ce n'est pas le miracle de ce passage. Le miracle du passage, c'est que Pierre et Jean marchaient ensemble, oui, ensemble. Pas au sens, tu peux me prendre pour venir à la réunion mardi, j'ai pas de voiture. Non, c'est pas ça. Hein. Dans le sens spirituel, Pierre et Jean montaient au temple ensemble. Pierre et Jean marchaient ensemble. Le miracle, c'est qu'une fois qu'ils avaient tous, ils ont tous été à la ramasse. Ils ont tiré les leçons de leur échec. Ça les a brisés intérieurement, pleins d'humilité et honteux. Ils sont montés à la chambre haute sur les instructions de ce que Jésus avait donné. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont vécu une unité. Et le véritable miracle, c'est que Pierre et Jean étaient ensemble. Et c'est ça qui a libéré l'onction. L'unité, c'est la puissance de l'Église, et c'est ça qui va libérer l'onction sur les captifs, sur les malades, etc. Ce que vous voulez. Vous voulez vivre ces choses ? Il faut que Christ soit tout et en tous, mes bien-aimés. Tu veux vivre ces choses ? Cette semaine, tu réfléchis sérieusement. Et puis tu dis au Seigneur, tu dis, Seigneur, montre-moi dans l'Église qui est mon Pierre, celui qui me... Parce que quand on parlait de Pierre à Jean, et quand on parlait de Jean à Pierre, il est gonflé quand même celui-là. Hein. Il a osé demander une place à côté de Jésus avec son frangin Jacques. Alors les deux-là, je te garantis, depuis le temps qu'on les a dans l'Église, ils sont gonflés quand même. Hein. Ils ont osé demander au Seigneur, et puis nous... Et quand on parlait de Jean à Pierre, si tu veux vivre le surnaturel de Dieu dans ton église, dans ta vie, réfléchis bien, mon frère, ma sœur. Qui est ton Jean ? Parce que tant que tu ne seras pas un avec lui, l'église restera ce qu'elle est. Qui est ton Pierre ? Dans l'Église. Parce que tant que tu ne seras pas un avec lui. Et c'est ça le plus grand miracle qui a permis que. C'est à ces points, je termine avec ça, bien aimé, ces points. Je ne parle pas de l'unité, il y a tellement de choses à dire, oubliez ça, on en parlera plus tard. On reste sur la composition miraculeuse de l'Église. Je termine en disant que. C'est à ces points qui sont en réalité le ciment de notre unité dans l'esprit. Ces points sont le ciment indestructible de notre unité dans l'esprit. C'est là qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut vivre, c'est ça qu'il faut chercher à être et ne jamais les perdre de vue, de sorte que nous n'ayons pas une échelle de valeur renversée, un regard humain au lieu d'avoir un regard divin. Des apparences, des préférences charnelles au lieu d'avoir du spirituel. Et c'est seulement dans cette bonne vision de l'Église qui est la seule et l'unique, il n'y en a pas 50. Cette vision de l'Église, c'est celle de Dieu. Que quelqu'un vienne me prouver le contraire, Bible en main, c'est la vision de Dieu. Et c'est comme ça, bien-aimé, que disparaissent naturellement, sur la base de tout ce qu'on vient de voir, c'est ainsi que disparaissent les préjugés, la distance, l'indifférence. Ah oui, mais vous savez, moi j'ai rien contre personne. On est d'accord. Ne pas être en guerre est une chose. Être uni dans l'amour de Dieu, c'est autre chose. Puis entre deux, on a inventé la distance. On se respecte, mais bon, voilà. La distance, l'indifférence, les tensions, les critiques, les médisances, les querelles, l'esprit de parti, le jugement, les clans, les rivalités, la suffisance, les conflits, les divisions, et je pourrais mettre, etc. C'est sur cette base-là que toutes ces choses qui attristent l'esprit et qui tuent l'Église, c'est comme ça que ça disparaît, et que l'Église peut enfin surgir, ressortir, se relever de ses cendres, et être l'Église que Jésus veut, ici-bas, dans cette génération en 2026. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. On se recueille. Merci pour votre attention. Alléluia. Les frères.